Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France. Une émission préparée et présentée par Anita Drouet. Bonjour à toutes et à tous. J'accueille l'invitée du jour, Madame Marie Bidot, présidente de la Commission nationale de la laïcité de la Grande Loge féminine de France. Bonjour Marie.
Bonjour Anita.
Vous avez intitulé cette émission « La laïcité, rempart de notre République ». C'est bien un sujet choisi pour son actualité. En effet, le 9 décembre prochain, le gouvernement examinera en Conseil des ministres un projet de loi confortant les principes républicains. Contrairement à ce que nous pouvions en attendre, les termes laïcité et séparatisme ont disparu de son intitulé. Pourtant, le président de la République, lors de son discours prononcé le 2 octobre dernier, en avait fait mention.
La date choisie du 9 décembre a une signification symbolique. En effet, elle commémore la loi du 9 décembre 1905, qui est la date de sa promulgation, c'est la loi de séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire l'instauration du principe de laïcité dans notre République, principe affirmé aujourd'hui dans l'article 1 de la Constitution de la Ve République.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans restriction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Le changement d'intitulé de ce projet de loi témoigne de la volonté du gouvernement de réaffirmer, tout en les renforçant, les principes républicains bafoués lors des derniers actes terroristes. Je veux parler de l'assassinat de Samuel Paty et de celui des catholiques à Nice. Car, au-delà des personnes visées, ces terroristes, qui se réclament d'une religion, sont le bras armé d'individus qui attaquent depuis plusieurs années les principes fondateurs de notre République, et tout particulièrement la laïcité, avec son corollaire, la liberté de conscience et la liberté d'expression.
Vous voulez dire que le changement d'intitulé du projet de loi découle des actes terroristes ?
Oui, c'est bien cela. Le refus du respect des lois de notre République, c'est ce que le président a nommé « séparatisme » au pluriel. C'est-à-dire des mouvements qui sont orchestrés par des extrémistes agissant au nom d'une religion, en l'occurrence l'islam politique, qui représente le côté obscurantiste et radical de cette religion. Bien évidemment, il est important de souligner que la plus grande majorité des citoyens de confession musulmane qui vivent en France ne se reconnaissent absolument pas dans cette frange minoritaire, violente et adepte d'un communautarisme religieux à vocation politique totalitaire.
Mais je crois qu'il existe aussi d'autres dérives séparatistes, non ?
Hélas, et bien évidemment. Je veux citer les évangélistes fondamentalistes. Leurs attaques plus sournoises n'en sont pas moins très dangereuses. Ces églises évangélistes, dont certaines se réfèrent au créationnisme, sont actuellement moins développées en France qu'outre-Atlantique. Mais elles progressent sur notre territoire.
Mais on a l'impression que le phénomène de l'extrémisme prend des proportions de plus en plus graves. Vous pensez que nous n'avons rien vu venir ?
Hélas, ce phénomène n'est pas nouveau. Notre obédience, la Grande Loge féminine de France, travaille sans relâche à dénoncer et à lutter contre la montée des extrémismes communautaires. Lors de notre colloque du 11 décembre 2010, nous avions déjà pointé les dérives qui existaient dans les services publics, tant à l'hôpital qu'à l'école. Le discours sur les séparatismes rejoint nos inquiétudes d'il y a 10 ans. Et l'émergence des réseaux sociaux favorise la diffusion de la propagation d'idées trop souvent violentes et haineuses qui renforcent le communautarisme qui sont totalement incompatibles avec les valeurs de notre République.
Cette alerte permanente dont vous parlez, Marie, vous a conduit à regarder avec un intérêt particulier le contenu de la future loi qui vise à renforcer les principes républicains et va ainsi toucher certaines dispositions de la loi 1905.
Oui, sans entrer dans toutes les propositions de ce texte, des éléments importants apparaissent en particulier concernant l'école. Il est essentiel de rappeler ce que sont les missions de l'école. Elles sont d'abord de transmettre et de faire partager des savoirs universels, d'enseigner les valeurs de notre République comme l'égalité, la fraternité et le principe de laïcité, principe unificateur. C'est la laïcité qui permet de se distancier par rapport aux approches dogmatiques des religions. L'école, ne l'oublions pas, est bien plus qu'un service public. Elle est dans notre République démocratique une institution qui permet à l'élève, dès son plus jeune âge, d'acquérir les bases de la citoyenneté, de le rendre capable d'acquérir son propre arbitre. C'est l'école aussi qui l'aide à penser par lui-même, qui l'éduque à l'esprit critique, moteur de la liberté de conscience, qui s'appuie sur plusieurs principes, l'éveil à la curiosité, l'acquisition des connaissances, la lucidité conduisant très progressivement à une autonomie intellectuelle. C'est dans ce lieu préservé, dans cet asile inviolable dans lequel les querelles des hommes ne doivent pas pénétrer, comme le disait Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale en 1936, en parlant de l'école. C'est là que doivent être expliquées clairement les valeurs de la République, afin de former les citoyens de demain, des citoyens qui se doivent d'être éclairés, car sans la lumière de la raison, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des choses que ne peuvent accepter les tenants d'une idéologie mortifère qui mettent leurs principes au-dessus des lois de notre République.
Ceux-là même qui n'acceptent pas que le blasphème existe en France.
Tout à fait. Il est important de rappeler que c'est la Révolution française qui a mis fin au délit de blasphème en instaurant la liberté d'expression et ses corollaires, la liberté d'opinion et de croyance, inscrite depuis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 1789. C'est ce que ne veulent pas comprendre ceux qui harcèlent sur les réseaux sociaux et menacent de mort la jeune Mila, qui en donne son opinion personnelle sur la religion de ses agresseurs. Elle n'en appelle absolument pas pour autant à la haine ni à la violence, et donc n'est pas hors la loi, ce qui d'ailleurs a parfaitement reconnu le parquet de Vienne en classant sans suite l'enquête la visant.
Si je vous comprends bien, si l'école est un lieu inviolable, la République a la responsabilité de soutenir les enseignants.
Oh, il est important de toujours mieux former les enseignants, évidemment. De les former aux valeurs républicaines, à ses principes, en leur fournissant des outils pédagogiques les plus performants pour les aider dans leur mission. On notera que la charte de la laïcité est l'un de ces outils pédagogiques qui doit être davantage explicité et adopté, tant auprès des élèves que des parents, pour qu'ils puissent se l'approprier. D'ailleurs, les parents sont tenus de la signer. À tout cela s'ajoute un élément essentiel, la protection et le soutien sans réserve des enseignants lorsqu'ils sont confrontés à des contestations idéologiques ou religieuses. Cet accompagnement doit permettre à l'enseignant de rompre sa solitude sur le terrain, de pouvoir s'exprimer auprès de sa hiérarchie et de recevoir un outil psychologique plus efficace que celui qui, certes, existe, mais doit être renforcé, et cela en tirant la sonnette d'alarme dès les premières alertes. À noter aussi que ce projet de loi inclut un article définissant les sanctions spécifiques concernant la haine en ligne et les pressions exprimées sur les agents de l'État.
Je vous remercie d'insister et de le signaler. C'est important, en effet, de sanctionner tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Concernant les associations, est-ce que vous pouvez nous éclairer, Marie, sur un certain nombre de modifications prévues dans cette nouvelle loi ?
Ces modifications visent deux types différents d'associations. Les premières concernent les associations de type 1901, dans lesquelles le gouvernement prévoit de prendre un certain nombre de dispositions pour éviter les dérives sectaires et les propagations des discours de pratiques contraires aux lois de la République. Notamment, le projet de loi prévoit que les associations qui demandent des subventions publiques devront signer un contrat par lequel elles s'engageront à respecter les principes et valeurs de la République, dont, bien sûr, la dignité de la personne humaine, le principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le principe de fraternité et le rejet de la haine. Cet engagement sera la contrepartie des subventions publiques perçues et si le contrat est rompu, ces associations devront bien évidemment rembourser les fonds alloués.
J'espère que cela sera suivi et vérifié. En ce qui concerne les associations de la loi 1905, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Concernant les associations cultuelles qui sont régies par la loi de 1905, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, rien n'oblige une association à objet cultuel de rentrer dans ce dispositif qui obéit à des règles spécifiques plus contraignantes que celles qui étaient prévues pour les associations de type 1901, c'est important de rappeler la différence. Par exemple, l'interdiction de recevoir des subventions publiques, celle d'y tenir des réunions politiques, l'obligation de tenir des documents comptables. Et le projet de loi prévoit l'obligation de déclarer la qualité cultuelle d'une association lors de sa création. Il entend ainsi renforcer leur transparence financière et le contrôle de financements étrangers, ce qui est extrêmement nouveau et important. Il y a d'autres associations à objet mixte, c'est-à-dire culturelles et cultuelles. Elles ne rentrent pas sous le régime de la loi de 1905 et seront soumises aux mêmes obligations, mais n'en auront pas les avantages. L'ensemble de ces mesures peut apporter plus de transparence. Mais ce qui a manqué jusqu'à présent, à notre avis, ce ne sont pas les dispositions législatives et réglementaires qui permettent de mieux contrôler les associations cultuelles et de sourcer leur financement, mais bien la volonté politique de les appliquer et les moyens pour le faire. C'est ça, à mon avis, à notre avis, à nous, le vrai problème.
Ce projet de loi permettra donc de réinstaller une présence républicaine avec ses valeurs perdues dans les territoires perdus de la République.
Oh oui, une meilleure mixité sociale est absolument nécessaire pour ramener ces quartiers dans la République. C'est du reste l'un des chapitres du texte de loi. N'oublions pas combien le respect des valeurs républicaines est malheureusement absent dans certains territoires. Difficultés liées à la non-mixité sociale, à une urbanisation mal conçue où dominent, hélas, pauvreté et chômage, à un environnement familial difficile ou encore à un manque d'offres culturelles ou sportives. Ces problèmes sont à l'évidence aggravés par le désœuvrement dû souvent à un chômage de masse et le résultat est trop souvent la mainmise de trafiquants avec comme seul recours, voire seul espoir, l'engagement religieux.
Est-ce que ça signifie, Marie, que cet engagement vient répondre à une recherche de lien et à un besoin d'appartenance qui n'est pas réalisé par ailleurs ?
Oh, certes. Les membres de l'islam radical tirent profit de ces situations pour étendre leur hégémonie et diffuser leur discours anti-républicain. Ainsi, sous couvert d'actions sociales ou culturelles, des États théocratiques font de l'embrigadement idéologique au sein du territoire de notre République.
Alors, comment agir ? Comment inverser ce désordre ?
Bien, au-delà de plusieurs projets urbanistiques en cours pour une meilleure mixité sociale, il serait certainement important d'œuvrer au tissage d'un véritable lien social avec les acteurs de la République au sein de ces territoires. C'est-à-dire cultiver des échanges avec les acteurs locaux, les élus et les associations pour y enraciner les valeurs de la République de façon pérenne. Enfin, si la citoyenneté, la civilité et les valeurs de notre République laïque ne sont pas unanimement partagées sur le sol français, c'est aussi parce que la laïcité reste un concept abstrait et souvent mal compris et ou mal expliqué.
Marie, de grâce, pouvez-vous donner à nos auditeurs une note d'espoir ?
Vivre ensemble aujourd'hui, c'est dialoguer avec toutes les cultures et connaître toutes les civilisations. Mais c'est surtout respecter la loi commune. La liberté, l'égalité et la fraternité permettent l'échange pacifique entre les différentes cultures qui se côtoient sur notre sol et forment notre nation. Et c'est le principe de laïcité qui garantit une vie harmonieuse entre tous les citoyens, car il conduit à l'universalisme. La laïcité permet la liberté de conscience, qui inclut la liberté pour chacun de pratiquer ou non la religion de son choix. C'est pourquoi nous sommes reconnaissantes aux gouvernants et aux parlementaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui ont mené ces combats pour garantir à tous, garçons et filles, une école obligatoire et laïque, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de conscience et la liberté d'expression.
Pardon si je vous coupe, Marie. Quel regard spécifique avez-vous, en tant que franc-maçonne, sur la laïcité ?
Merci de me couper, vous savez que je suis intéressable sur ce sujet. Mais revenons à nous. Nous savons, nous, femmes et francs-maçonnes de la Grande Loge féminine de France, ce que nous devons à la laïcité, à toutes les libertés qu'elle nous a permises de conquérir. La laïcité a toujours été un facteur d'émancipation pour les femmes, car elle affirme la suprématie de la loi civile sur toute loi religieuse. D'où l'espoir que nous mettons dans ce projet de loi, renforçant les principes républicains, même si le mot laïcité n'est plus présent dans son intitulé, sa primauté reste sous-jacente. Mais nous devons rester attentives et toujours extrêmement vigilantes au contenu effectif de la loi proposée ce 9 décembre prochain et à ses amendements et surtout à ses applications futures. C'est pour que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ne soient pas des mots vides de sens. La laïcité doit en être le ciment qui consolide les valeurs républicaines, des valeurs partagées par tous, chacun restant libre de ses choix de vie et de religion, dans le respect de la loi du 9 décembre 1905.
Merci Marie d'avoir éclairé notre compréhension sur le projet de loi qui sera débattu le 9 décembre prochain. Merci au réalisateur Perret Legras, à la technique Laurie Vachon, avec la collaboration de Claire Poinsignon, et merci aux auditeurs de l'émission.